une bonne nouvelle. Car l'évangile est une bonne nouvelle, comme cela a été dit. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime et qu'il s'est fait connaître à nous en Jésus-Christ. Et nous allons laisser la place à notre frère Kevin Wametrua. Alors, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises cette semaine, notre frère va nous rejoindre d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, pour servir le Seigneur dans cette belle ville d'Annecy. Et il termine ses études à l'école biblique de Jérusalem, où le missionnaire Jacques Elbaz est directeur. Il est originaire lui-même de la Nouvelle-Calédonie, voyez, des îles lointaines. Hein, voilà, et il va cet après-midi ouvrir pour nous la Bible, qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu a inspiré ce livre saint, ce livre sacré, et que les auteurs qui l'ont rédigé l'ont fait sous la direction de Dieu lui-même. Alors nous voulons être attentifs à ce message, que Dieu bénisse son serviteur et qu'il nous bénisse les uns et les autres également. Voilà.
Bonjour à tous. J'aimerais qu'on puisse prier ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'adorons, notre Dieu. On veut te demander encore de parler à nos cœurs, Seigneur, de toucher nos cœurs encore, de nous attirer à toi, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, conduis toutes choses, ta parole, et bénis cette assemblée encore, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, faire une lecture avec vous dans le livre de l'Exode, le chapitre 14 et les versets 10 à 16. Exode 14, les versets 10 à 16. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et au verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Nous sommes dans un contexte très particulier. Le livre de l'Exode est un livre qui relate l'histoire d'un peuple esclave en Égypte. Une Égypte qui est une grande nation, une très grande nation puissante par ses armes, par sa richesse, par ses marchandises, mais aussi par son roi, le Pharaon. Et on pourrait parler de l'Égypte comme on pourrait parler de New York ou de Los Angeles ou de l'Amérique du Nord. On pourrait parler de l'Égypte et comparer à l'Europe. C'était tout à fait pareil. Une nation très puissante et un tout petit peuple, le peuple d'Israël. Petit, déjà de taille, et très insignifiant. Esclave. Subir l'oppression de l'Égypte, subir la maltraitance de l'Égypte, subir les moqueries de l'Égypte. Israël, esclave, Égypte, grande nation. Et dans ce passage, comme nous l'avons lu, Israël sortait d'Égypte, où Dieu avait envoyé 10 grandes plaies. Et là, dans le désert, ils sont arrivés en face d'une mer, la mer des roseaux, ou la mer rouge, selon certaines cartes. Et là, devant la mer, ils éprouvent des regrets. Ils disent, ah non, on aurait aimé servir les Égyptiens, c'était mieux de travailler dur, c'était mieux de commencer tôt, de casser les pierres, de labourer les champs. C'était mieux de travailler au soleil que d'être là dans le désert et de mourir. Le peuple d'Israël a regardé en face d'eux une mer. Et ce qui va nous intéresser ce soir, c'est que le terme en hébreu pour qualifier la mer rouge, elle signifie, si on traduisait littéralement, la mer de la faim. En d'autres termes, une voie sans issue. Ils vont commencer à murmurer et dire, mais pourquoi tu nous as amenés ici? Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Ils ont commencé à regretter, mais Moïse leur a encouragé. Gardez le silence, ne murmurez pas. Et devant cette voie sans issue, ils se sont agités. Devant cette voie sans issue, ils ont commencé à murmurer. Devant cette voie sans issue, ils se sont posé des questions. Ils se sont fiés à ce que leurs yeux voyaient. Et j'aimerais voir avec un exemple avec vous, dans Matthieu, le chapitre 9. Exemple de personnes qui ont cherché. Matthieu, chapitre 9. Et les versets 20 à 22. Matthieu 9, versets 20 à 22. Et voici une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis toucher le bord de son vêtement, car disait-elle, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Pendant 12 ans, cette femme subissait la perte de sang. Et chez le peuple hébreu, chez le peuple juif, une perte de sang, une femme qui avait une perte de sang, c'était quelque chose considéré comme impur. On ne pouvait pas la toucher même, on ne pouvait pas la regarder. Elle était exclue de la communauté. Elle était exclue de toute autre chose parce qu'elle avait cette maladie-là. Et elle a essayé les médecins, elle a essayé bon nombre de méthodes. Elle a dû peut-être aller voir quelques médecins spécialistes, elle a peut-être dû aller voir quelques gourous ou je ne sais. Mais non, une voie sans issue. Et là, dans cette voie sans issue, elle s'est rappelée. Jésus, si je puis toucher le bord de ses vêtements, et là encore, le bord de son vêtement, c'était, traditionnellement, les juifs avaient une tunique avec des petites flanges sur le côté, et ces flanges symbolisaient la parole de Dieu. Et pour cette femme, elle disait, si je puis toucher, si je puis revenir à la parole, et nous savons que la parole est Jésus-Christ incarné, et si je puis revenir à Christ, si je puis toucher Christ, je serai guéri. Une voie sans issue. Humainement parlant, une voie sans issue. Mais la Bible nous dit aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Une voie sans issue, mais une seule issue, c'est Jésus. J'avais un ami. J'ai un ami, et à chaque fois qu'il me raconte son témoignage, sa vie, il était toxicomane. Il ne pouvait pas s'en passer jour après jour. Il fallait qu'il se pique, qui se met de l'adrénaline encore. Et un jour, pendant qu'il était en prison, c'était vraiment mal barré, il était mal barré. C'était fini pour lui. Il n'avait plus aucune solution, plus aucune espérance. Il se disait, bon, je vais me droguer davantage et puis c'est bon, quoi. Et puis après, si je meurs, je meurs. Mais dans cette prison, dans cette voie sans issue, il s'est souvenu d'une personne. Dans cette voie sans issue, il s'est souvenu de Jésus. Et à partir de ce moment, il a invoqué Jésus. Il nous racontait que il sentait une présence telle qu'il ne pouvait pas retenir ses larmes. Il sentait une présence telle que il n'avait qu'une seule envie. Il n'avait plus envie de la drogue, mais il avait envie de Christ. Il avait envie de connaître ce Jésus. Et il s'est mis à lire, à prier, à lire et à continuer à lire. Et aujourd'hui, il s'occupe d'une communauté. Gloire à Dieu. Mais dans cette voie sans issue, mes amis, dans cette voie sans issue, il y a toujours une issue. Jésus. J'avais un oncle aussi qui ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas en Jésus. Jésus, mais c'est qui? C'est cet homme quand on parle dans les livres. Cet homme qui a donné sa vie, qui est mort sur une croix. Mais qui c'est qui lui? Et mon oncle me disait souvent, me persécutait, me disait, mais c'est quoi ton Jésus? C'est quoi ton Dieu? Depuis longtemps je prie, mais pas de réponse. Et un jour, il a eu une grave maladie. Il a perdu l'usage de son poumon droit. Et son poumon gauche, au fur et à mesure, il le perdait. Il perdait fonction. Et juste quelques semaines avant qu'il meure, il discutait avec un frère. Et ce frère lui a parlé de Jésus. Il a dit, tu as préféré suivre une voie, mais sans issue. La voie que tu as suivie, elle est sans issue. Tu auras beau faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Vas-y, fais ce que tu veux. Agis selon tes désirs, suis ta voie. Mais ta voie, elle est sans issue. Et là, il a reconnu que sa voie était sans issue. Et il a demandé à ce frère, prie pour moi. Je veux accepter Christ. Et quelques jours plus tard, il est parti auprès du Seigneur. Mais avant de partir auprès du Seigneur, il a changé de voie. Il a pris cette voie, la voie de Christ. Un autre exemple, à l'école, nous avions un couple d'un âge avancé. Ils avaient une petite fille. Et les médecins l'ont condamné parce qu'elle avait une malformation du cœur, une voie sans issue. Donc les médecins disaient aux parents et même aux grands-parents, c'est pas la peine, ce n'est plus la peine, ce n'est plus la peine d'espérer, il n'y a aucun espoir, cette maladie est sans issue. Mais les grands-parents ont refusé, ils disent non, nous on croit en un Dieu qui est tout puissant, qui est capable de guérir, qui est capable de relever, qui est capable de restaurer des ruines. Nous croyons. Et ils nous ont partagé ce sujet de prière, et nous avons commencé à prier avec les étudiants et avec l'église sur Tel Aviv, en Israël. Nous avons commencé à prier, nous avons prié, et cette petite, à l'heure actuelle, qui devait être morte depuis 2 mois déjà, est toujours en vie. Si tu n'as pas Christ, la voie que tu suis est sans issue. Mais pour nous aussi chrétiens, parfois nous regardons à ce que nos yeux voient et nous voyons une mère et dit « Oh, mais Seigneur, tu m'as amené ici, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle est sans issue. » Dans des situations comme celle-ci, ne regardons pas avec nos yeux, mais regardons avec les yeux de la foi. Parce qu'un chemin est tracé, mais nous ne pouvons pas l'avoir avec nos yeux, mais avec les yeux de la foi. Il y a cette issue. Avancez, ne craignez pas. Gardez le silence. dans Jean chapitre 14 et le verset 6. Jean 14. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et cette voie, elle mène à une destination. Elle mène au Père, elle mène au ciel. Et il n'y a qu'un seul chemin pour aller jusqu'au ciel, et c'est Jésus. Le chemin, la vérité. Jésus n'est pas une des vérités, mais elle est la vérité. Beaucoup de religions prennent des vérités, mais parfois ces vérités sont des voies sans issue. Comme cité comme des exemples, en Inde, ils croient en Jésus. En Inde, ils croient en Jésus. Ils ont plus de 1900 dieux. Donc chacun choisit un dieu qui lui plaît et il l'adore, il lui donne de l'argent, il fait des offrandes végétaux, plusieurs rites, dont Jésus. Parmi ces 1900 dieux, il y a Jésus. Mais moi, j'aimerais vous dire ce soir que Jésus est cette voie qui, dans cette voie sans issue, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Tu auras beau faire ce que tu veux, tu auras beau faire les penchants de ton cœur. Tu peux, vas-y, tu es tout à fait libre. Tu es tout à fait libre. Mais j'aimerais te dire une vérité. C'est que la voie que tu as empruntée, elle est sans issue. Et cette voie sans issue va toujours t'emmener à être déçu. Tu seras toujours frustré. Tu seras toujours déçu. Et tu vas essayer encore, comme cette femme à la perte de sang pendant plusieurs années, elle a essayé aux alentours, tout autour d'elle. Sans aucune réussite. Mais elle a tourné le regard vers Jésus. Et là, sa voix, elle a changé. Elle a été guérie. Sa foi l'a sauvée. Et cet après-midi, si au départ tu avais pris ce chemin et que tu t'es écarté, je t'invite à revenir sur ce chemin, sur cette voie qui est la véritable voie qui mène au ciel, qui mène au Père. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Aujourd'hui, c'est Pâques. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre moyen de salut qu'en Christ. Aujourd'hui, c'est Pâques, où Christ a donné sa vie. Où Christ, où Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils. Lui, le Fils Tout-Puissant, bien-aimé du Père, le trésor où les anges l'acclament. Vous savez, dans le ciel, les anges acclamaient Dieu, les anges glorifiaient Dieu. Et ce Dieu-là envoyait son Fils sur terre, prenant la condition d'un homme. La Bible nous dit, à l'image parfaite, comme toi, comme moi, comme nous, c'est même image. Il est venu en tant qu'être humain. Il a marché sur la terre, on l'a méprisé. Il n'a pas eu le privilège d'avoir un confort particulier. Il est né dans une étable. Il a traversé les déserts, il a fatigué, souvent il a dormi dans une barque, dormi dans les déserts. Il n'a jamais eu de confort particulier. ce Dieu-là à qui appartient le ciel et la terre, qui appartient lui qui a tout créé. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi il est venu sur terre? Pourquoi il est venu sauver des hommes comme nous? Pourquoi il aurait pris la peine de venir pour nous? Pourquoi il aurait pris la peine de venir sur terre, de subir ce qu'il a subi pour chacun d'entre nous? Je me suis souvent posé la question. Le Seigneur aurait pu me laisser là où je suis, dans mes problèmes, dans mes tracas, dans mes soucis, dans ma dépression, dans ma maladie, et ne faire aucun cas de nous-mêmes. Mais par amour il est venu. Par amour pour toi, par amour pour nous, il est venu. Par amour pour chacun d'entre nous, il est venu. Il n'a rien dit, alors qu'il pouvait d'un claquement de doigts appeler ses anges et foudroyer les hommes. Mais il n'a rien dit. Par amour, il n'a rien dit. À la croix, il a tout accompli. À la croix, comme Moïse a levé le bâton, la croix s'est élevée pour nous offrir un chemin. La croix de Jésus. Aucun autre nom, aucun autre salut que le salut dans le nom de Jésus, par la foi en Jésus. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Gardez le silence. » Mes frères et sœurs, gardons le silence. Si nous sommes dans une voie sans issue, peut-être que nous voyons de nos yeux, une voie, elle est sans issue. Mais j'aimerais vous encourager ce soir à regarder avec les yeux de la foi. Parce que dans cette voie sans issue, frères et sœurs, il y a toujours une issue. Espérons contre toute espérance. Gardons la foi. Marchons et gardons le silence. Si parfois nous ne comprenions pas, si nous ne comprenons pas, ne murmurons pas. Mais prions. Prions. Car la prière est un moyen que le Seigneur nous a donné afin de libérer notre âme, afin de libérer notre foi, afin que notre foi puisse être boostée. Dans mon pays, en Nouvelle-Calédonie, nous avons négligé la prière. Nous avons tellement négligé la prière que nous en subissons les conséquences. Les jeunes font n'importe quoi. Les jeunes meurent de plus en plus. Ils se suicident de plus en plus. Même les personnes âgées se suicident, ils en ont marre. Nos politiques sont corrompues parce que nous avons mis Dieu de côté. Nous avons mis ce moyen de salut de côté. Nous avons préféré mettre notre confiance dans nos richesses, dans notre propre force, dans notre intelligence, alors que notre intelligence est erronée, alors que notre force est désillusion. Elle est illusoire. Et nous voyons à travers ces exemples que le peuple d'Israël a regretté. Ils ont regardé à leurs yeux. Ils n'ont pas fait confiance en l'Éternel. Mon ami, j'aimerais t'encourager ce soir. La voie que tu prends est une voie sans issue. Et pour sortir de cette voie sans issue, il te faut prendre une seule voie. Jésus-Christ, car il est le seul chemin. J'aimerais t'encourager à le faire expressément, car les temps sont très difficiles et le Seigneur revient très très bientôt. Et nous voyons à travers le monde des bruits de guerre, nous voyons des maladies qu'il n'y avait pas depuis 30 ans qui refont surface, des nouvelles maladies qui reviennent, parfois des maladies qu'on ne peut pas guérir, que l'homme est limité, il n'y a aucune solution. Aujourd'hui, c'est le temps de rechercher Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre ce chemin. Mes frères et mes sœurs, fortifions-nous. Gardons le silence et par la foi, regardons avec les yeux de la foi, non pas avec nos yeux, mais gardons courage, gardons la foi, persévérons. Et mon ami, ce soir, si tu n'as pas fait le pas, je t'encourage à le faire expressément. Car nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Et hier à la Genèse, je racontais l'histoire d'une maman africaine qui faisait partie de la communauté de Tel Aviv. Elle avait des problèmes, elle avait divers problèmes avec ses enfants, avec le travail, problèmes de racisme, elle subissait parfois la moquerie, elle était méprisée au travail, elle avait bon nombre de problèmes. Mais à chaque fois qu'elle venait à l'église, elle priait constamment, elle pleurait, elle gardait toujours la foi et elle priait, elle louait le Seigneur, elle a remercié, elle remerciait le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour son amour, pour sa fidélité. Et fini la réunion, elle est sortie dans la rue, elle s'est fait faucher par une voiture, mort sur le coup. C'est pour vous encourager que on ne sait pas de quoi sera fait demain. Dans 5 minutes, on peut sortir. Dans 1 heure, dans 3 heures, cette nuit, aujourd'hui, pour toi, mon ami, c'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le temps d'accepter cette voie qui te mène à Dieu. Et pour nous, frères et sœurs, de ne pas regarder à nos yeux, mais à regarder avec les yeux de la foi, à garder le silence. Ne craignez pas, mais gardons le silence. Continuons à persévérer dans la prière. Nous prions pour cette ville, nous prions pour les alentours parce que nous savons que dans cette ville, Dieu a déjà tracé un chemin, mais il nous faut persévérer, persévérer, persévérer et persévérer. Comme nous dit la Bible, espérer contre toute espérance. Amen. Prions.